VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Égypte, 10 soldats égyptiens tués dans l'explosion de 2 bombes lors d'affrontements avec des djihadistes du groupe État islamique dans le nord de la péninsule du Sinaï. C'est ce qu'annonce ce jeudi l'armée égyptienne. 15 djihadistes ont également péri dans les combats. Les 2 bombes qui ont explosé avaient été placées en bordure de route au sud de la ville d'Al-Arik. Au Mali, des affrontements entre des chasseurs d'oiseaux et des peuls ont fait, bilan provisoire, 29 morts et des dizaines de blessés. Ces accrochages ont eu lieu à Bali-Koro, dans le cercle de Niono, région de Ségou. Nous signale notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Après le cercle de Massina, Niono vient de tomber dans les conflits intercommunautaires, avec un affrontement sanglant entre les chasseurs appelés ici d'Ozo en Bamanan et les peuls djihadistes. À la veille des affrontements de ce mercredi 22 mars, 3 personnes de la communauté Peul ont été tuées par des chasseurs. C'est pour répondre à cette représailles que les Peul ont planifié leur riposte. Et c'est dans le cercle de Niono, région de Ségou, plus précisément dans le secteur de Bali-Koro, ex-arrondissement de Sokolo, que les Dozo et les Peul se sont tués. Le bilan côté chasseurs est de 9 morts, 13 blessés, alors que les Peul, 20 de morts avec 10 blessés. Certains blessés ont été évacués sur l'hôpital de Niono. Il a fallu encore l'intervention de l'armée malienne venue de Djabali pour stopper le carnage. Selon certains habitants de la zone, ce sont des terroristes qui agissent et font croire que ce sont des Peul, car les Pamanan et les Peul ont toujours cohabité dans la parfaite harmonie. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, un exercice militaire effectué mercredi dans le centre de Ouagadougou, la capitale, a semé la panique. Les habitants ont couru à une nouvelle attaque djihadiste un peu plus d'un an après l'attentat meurtrier de janvier 2016. Les détails avec Orzouma Compaoré.
C'est aux alentours du mess des officiers qu'un impressionnant déploiement de plusieurs personnes en treillis, suivi de coups de feu, a provoqué la panique au sein de la population. Mais l'interruption de la circulation, les véhicules blindés faisaient partie d'une manœuvre militaire grandeur nature, effectuée par des éléments de la gendarmerie nationale. D'ailleurs, ces exercices en milieu urbain se poursuivront les prochains jours. Pour les habitants, personne n'a été prévenu au préalable, ce qui a provoqué la peur dès les premiers coups de feu. La gendarmerie s'est justifiée en avançant des raisons de sécurité. En janvier 2016, un commando djihadiste avait tué 30 personnes en ouvrant le feu sur des clients de bars et d'hôtels au cœur de la capitale.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Mauritanie, le projet de révision constitutionnelle approuvé par l'Assemblée nationale mais rejeté par le Sénat sera soumis à référendum le plus rapidement possible. C'est ce qu'a affirmé le président mauritanien Mohamed Oulah Abdelaziz lors d'une conférence de presse mercredi soir. Ce projet de modification de la constitution actuelle en vigueur depuis 1991 prévoit notamment la suppression du Sénat et le changement du drapeau national. Il a été adopté le 9 mars par les députés, mais 33 des 56 sénateurs ont voté contre le texte, marquant son rejet le 18 mars. Et puis au Bénin, le projet de révision de la Constitution se trouve déjà sur la table des députés qui doivent l'examiner vendredi. En attendant, le débat se poursuit dans les différentes couches de la société béninoise. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Il n'y a pas un seul jour qu'une voix défiler sur les médias des pros ou anti pour donner leur avis sur la révision de la Constitution du Bénin. Et depuis que le projet a été transmis à l'Assemblée nationale, le mercure est monté d'un cran. D'ailleurs, certains députés ont dit non à la demande du gouvernement qui voulait que le projet soit étudié en procédure d'urgence. Le député de l'opposition, Valentin Djanotin, après avoir lu le document, pense qu'il y a des modifications sensibles qui ont été apportées et qu'on serait en face d'un projet de création d'une nouvelle république.
Contrairement à ce qu'on avait fait croire que le président va diminuer son pouvoir, c'est le contraire. Qu'on me dit que désormais, c'est le chef de l'État qui à lui seul va ratifier les accords de prêt internationaux sans recourir à l'Assemblée nationale. Je crois que l'on ne peut pas quand même laisser à un individu futile, président de la République, cette lourde responsabilité d'engager toute une nation sur des générations par rapport à des prêts qui poursuivent des milliards. Quand on me dit, bon, avec ça là, que c'est pas une nouvelle république, tout ça là, moi je dis non.
Le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki, lors du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres, est revenu sur le sujet en ces termes.
Il est utile de préciser d'entrée que la Constitution n'a pas été réécrite. Son préambule n'a fait l'objet d'aucun amendement. Le projet de modification n'entraîne pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'induit pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République.
Au niveau de ceux de la Convention patriotique des forces de gauche, les inquiétudes sont tout autres.
On ne peut pas faire confiance aux députés. Que chaque citoyen interpelle directement le député de sa circonscription et lui rappelle ses devoirs. On doit exiger, continuer d'exiger que le peuple doit être au cœur, impliqué dans la révision ou dans l'élaboration de toute constitution au Bénin.
Joël Aïvo est un constitutionnaliste, professeur de droit à la faculté des sciences politiques à l'Université du Bénin. Il a siégé au sein de la commission ayant travaillé sur les réformes à apporter à la constitution. Et pourtant, au lendemain de la transmission du projet à l'Assemblée nationale, il a affiché son désaccord sur certains points.
Je trouve que le Bénin, notre peuple, ne mérite pas qu'on lance un débat sur une constitution qu'il a défendue avec autant de constance face au président Bouliaye. Notre peuple ne mérite pas d'être barricadé, d'être mis de côté. Dans la reformulation de ce texte, première divergence que j'ai, c'est la procédure. Vive à l'U, révision au pas de charge, à pas forcer, tout le monde silence, plus personne n'en parle, allez on y va, je suis pas d'accord.
Ancien ministre de la Défense du président Bouliaye, Théophile Yarou, a lui aussi siégé au sein de la commission Jogbenou. Il pense que le projet tel que transmis doit être toiletté.
Aujourd'hui, si je suis à la place du chef de l'État, c'est vrai, je retirerai purement et simplement le mandat unique pour faciliter et faire avancer le pays. Parce que ça pose un problème. Mais les autres, on peut encore améliorer.
Il faut dire que les magistrats, eux aussi, s'invitent déjà dans la danse et clament tout haut que la seule alternative politique crédible et légitime pour réviser la Constitution serait la recherche du consensus national. La prise en considération du projet par son adoption à la majorité des trois quarts des députés composant le Parlement, le recours au référendum. Les regards sont donc tournés vers le Parlement qui se penche sur le dossier vendredi. De Cotonou, c'est notre Fleur Dandé pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En RDC, la désignation de Félix Tshisekedi comme président du rassemblement d'opposition et candidat au poste de Premier ministre de la Transition a relancé le débat sur la gestion des partis et la succession politique dans le pays. Certains voient cette désignation en remplacement de son père, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février, comme une illustration de la succession en politique congolaise qui se fait de père en fils. En commençant par le président Joseph Kabila. Une approche dénoncée par le président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalouira.
C'est une sorte de monarchisation de la vie politique au Congo, mais une monarchisation négative, tout simplement parce que c'est vrai, ces gens-là n'ont que pour CV le nom de leur père, n'ont que pour identité le nom de leur père, mais ils n'ont aucun programme, ils n'ont aucun profil, ils n'ont aucune préparation pour gérer la République. Il n'est pas mauvais en soi qu'on soit fils de ou fille de et qu'on puisse aspirer à une fonction. C'est légitime, mais il faudra en avoir les compétences nécessaires.
Emery Damien Kalouira, président de la CCT, la Coalition des Congolais pour la Transition. Crise migratoire maintenant, la Libye est devenue le point de passage obligé des migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe. Et le directeur général de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, William Lacy Swing, est arrivé aujourd'hui à Tripoli pour consultation. Solange Niamoulissa a joint Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève.
Depuis 1er janvier, il y a un peu plus de 19 000 migrants d'origine d'Afrique de l'Ouest notamment qui ont tenté la traversée de la Méditerranée depuis la Libye. Ce sont un peu plus de 2 000 personnes qui ont été secourues en revanche par les gardes-côtes libyens et qui ont été ramenées sur les côtes libyennes. Donc c'est 30% de plus que l'année dernière, à la même époque.
Qu'est-ce qui peut être fait pour arrêter ces flux de migrants?
La question n'est pas tant d'arrêter les flux de migrants, c'est pas une crise de chiffres encore une fois, on fait face en revanche à une véritable crise humanitaire où des centaines de personnes, depuis le début de l'année, sont déjà mortes en Méditerranée. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des solutions alternatives. Avec une économie qui s'est écroulée, avec une situation politique que l'on connaît en Libye, on doit pouvoir essayer d'apporter des alternatives, comme par exemple des centres ouverts qui éviteraient des centres de détention où les conditions de vie sont déplorables pour les migrants actuellement en Libye. Voilà, des centres ouverts où les personnes pourraient éventuellement être présentes là-bas, mais ne seraient pas emprisonnées.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM à Genève. Et pour terminer, ici à Washington, la Chambre des représentants, Chambre basse du Congrès, doit voter aujourd'hui sur un texte abrogeant et remplaçant Obamacare, la réforme du système de santé de l'ex-président Barack Obama. Le suspense reste entier concernant l'issue de ce vote.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.